Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Il y a 300 ans, Louis XIV meurt à Versailles. Nous revenons sur la vie du monarque qui a eu le règne le plus long de l'histoire de France avec Thierry Sarment, conservateur en chef du musée Carnavalet à Paris, spécialiste de Louis XIV et auteur de 1715, La France et le monde aux éditions Perrin. Donc, Louis XIV est mort le 1er septembre 1715, mais son agonie avait démarré plusieurs jours auparavant.
Il a souffert pendant un mois, ce qui est un bon chiffre pour l'époque.
Ça pouvait être bien pire. Comment réagissait la cour pendant ce mois d'agonie?
Eh bien, chacun supputait l'avenir. Suivant les hauts et les bas du bilan de santé royal, l'antichambre du roi se remplissait ou se vidait. Quand le roi allait plus mal, les courtisans avaient tendance à aller vers les antichambres des appartements du duc d'Orléans, son neveu qui était destiné à devenir régent. Et donc on a eu des scènes quelque peu burlesques d'aller-retour des courtisans entre les antichambres de l'un et de l'autre.
Il y avait un petit côté tragicomédie. Louis XIV, il s'en rendait compte de ça. Il était suffisamment conscient pour voir comme ça les courtisans affluer.
Il a su qu'il était perdu assez vite, au bout d'une dizaine de jours, quinzaine de jours. Et il s'est aussi rendu compte que l'avenir allait en partie lui échapper.
Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Est-ce que ce sont les derniers mots de Louis XIV?
Alors, ce ne sont pas ses dernières paroles, mais c'est une de ses dernières paroles, parce que c'était un homme de théâtre, et il a mis sa mort en scène, en prenant soin de prononcer des paroles un peu définitives, qui devaient être des guides pour ceux qui allaient lui succéder.
Comment ça, il met sa mort en scène?
Pour nous, la bonne mort, c'est la mort immédiate. On s'endort dans son fauteuil. Au XVIIe siècle, pas du tout. La bonne mort, c'est celle où on meurt conscient. On a le temps de faire le bilan de sa vie. Il est pas mal de souffrir aussi pour expier les fautes qu'on a pu commettre au long de sa vie. Et Louis XIV en avait commis un certain nombre.
Oh, c'est normal pendant un si long règne.
Et voilà. Et puis, il faut donner des exemples à l'entourage. Et pour un roi, l'exemple, il doit être donné non seulement à l'entourage, mais à tout le peuple dont il est le chef, et puis à la postérité. Puisque Louis XIV, il ne doutait pas une seconde que dans trois siècles, nous serions ici pour commenter sa mort.
Il savait déjà que Thomas Hugues et Sidonie Bonnec, ainsi que notre invité Thierry Sarment, parleraient de lui. Quand il meurt, qui lui succède?
Alors c'est Louis XV, qui est son arrière-petit-fils, puisque le fils et le petit-fils n'ont pas survécu à l'excellente santé de Louis XIV.
Il est tout jeune.
Il est tout jeune, il a 5 ans. Mm-hmm. Ça implique donc qu'il y ait une régence qui va être donc confiée à l'aîné des mâles de la famille de France, donc à Philippe d'Orléans, qui est le neveu de Louis XIV, mais un neveu dont Louis XIV s'est toujours beaucoup méfié. Et dans son testament, il avait cherché à réduire son influence après sa mort, à faire qu'il ne soit pas régent, mais simplement chef du conseil de régence. Mmh. Et finalement, la manœuvre va avorter.
Thierry Sarment, son déclin avait commencé déjà 3 décennies plus tôt, en 1685. De quoi souffrait-il, Louis XIV?
Alors, Louis XIV souffrait d'une quantité de maladies absolument extraordinaires. Il avait des épisodes dépressifs. Il avait des maux digestifs récurrents dus à son appétit pantagruélique.
Déjà, la dépression, déjà à l'époque, ça s'expliquait,
ça se disait pas comme ça.
On appelait ça des vapeurs. On appelait ça des vapeurs. Voilà. Ça s'est dit jusqu'au 19e siècle, notamment pour les dames. Il avait des dents dans un état assez lamentable, dû aussi à ce qu'il se nourrissait aussi de sucreries après avoir fait honneur aux venaisons. Et donc, on a dû lui en arracher une bonne partie vers 1685. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'anesthésie en ce temps-là et qu'on cautérisait au fer rouge.
Tout le monde fait la grimace dans le studio de la curiosité. Et il a gardé un trou dans le palais,
pendant toute une époque, il y a eu un trou dans le palais. Donc, quand il avalait de l'eau, l'eau ressortait par le nez. Bon, mais il semble que ça se soit... il finit par récupérer de ce petit inconvénient.
Donc, c'est un roi faible, oui. Louis XIV.
Alors, affaibli, malgré tout, il a vécu 30 ans après ça, dans une époque où la médecine était de pure fantaisie.
Thierry Sarment parlait tout à l'heure des bons mots que cherchait à faire aussi Louis XIV pour rester dans la postérité. Il y a cette phrase que l'on connaît tous qui symbolise sa toute puissance, c'est « l'État, c'est moi ». Est-ce qu'il l'a prononcé cette phrase?
Alors, il ne l'a jamais prononcé, mais je dirais que ça répond assez bien à sa mentalité dans ses jeunes années. Cette phrase, elle a été inventée par un historien complètement oublié aujourd'hui qui s'appelait Lémontet, qui a publié un livre en 1818 sur Louis XIV et qui, en fait, comme les historiens se recopient beaucoup les uns les autres, ça fait 2 siècles qu'on recopie les Montets sans le
citer. C'est-à-dire qu'il a avoué avoir mis des mots dans la bouche de Louis XIV qui n'étaient pas les siens.
C'était, en fait, dans le contexte du bouquin, c'était une espèce d'envolée.
Une jolie phrase.
Louis XIV aurait pu dire, et puis, un phénomène de téléphone arabe, ça devient une citation Louis XIV. Sur son lit de mort, il prononce la phrase inverse. je meurs, mais l'État demeurera toujours. Un demi-siècle entre les deux, où l'État est devenu une réalité très désincarnée. C'est la naissance de l'État moderne que nous connaissons maintenant.
On essaye de faire la chasse aux légendes qui entourent le règne de Louis XIV. L'une d'entre elles affirme que le jeune roi a reçu une éducation négligée.
Alors on trouve cette idée chez Saint-Simon, ouais, que tout le monde recopie, mais en fait, c'est pas Saint-Simon qui l'a colporté ce bruit, c'est Louis XIV lui-même. Et Louis XIV aimait à dire que son éducation avait été négligée, au fond pour montrer tout le mérite
qu'il était autodidacte.
Mais oui, qu'il s'était fait lui-même, s'était fait tout seul, et qu'il n'était pas, comme tout le monde le pensait, une sorte de création d'Anne d'Autriche et de Mazarin.
Et alors, c'était une création d'Anne d'Autriche et de Mazarin, ou pas, Louis XIV ?
Un peu des deux. Il a été façonné effectivement à ce culte du secret, de l'hypocrisie, de la dissimulation que pratiquaient beaucoup Anne d'Autriche et surtout Mazarin.
Vous voulez dire que des jeunes comme ça, il a appris déjà à manier l'hypocrisie, la dissimulation
Si vous voulez, dès l'âge de 6 mois, il faut voir que même dans son berceau, il recevait déjà des ambassadeurs. Vous savez, c'est vrai, la famille royale d'Angleterre, c'est parfaitement identique. Mmh. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, ils savent déjà qu'ils n'ont aucun rapport avec l'humanité ordinaire.
On apprend la représentation.
Voilà, la représentation, et sur tout le fait que, moins on en dit, mieux on se portera.
Et dans cette représentation, jusqu'à l'âge de 7 ans, Louis XIV ressemble à une petite fille ?
Alors, c'est vrai ? C'est vrai de tous les enfants à l'époque, c'est-à-dire que tous les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans sont ce qu'on appelle entre les mains des femmes. On leur met des espèces de petites jupes parce qu'ils ne sont pas censés être propres. Et c'est plus facile pour les changer. Bon. Et généralement, les petits garçons, à un moment, réclament ce qu'on appelle de porter les choses. Bon. Parce que justement, ils veulent porter l'épée, ils veulent être habillés en petits messieurs. Et à 7 ans, on fait quitter les robes. Et là, on les habille en petits gentilshommes, en petits rois. Et il est habillé à 7 ans comme il le serait à 40.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
J'imagine avec des choses, Thomas.
Des choses,
bah oui,
comme les petits enfants sous Louis XIV, j'aurais dû attendre donc l'âge de 7 ans pour avoir le droit de porter des choses. Voilà, on remonte le temps, vous l'avez compris dans la curiosité. 1er septembre 1715, on est dans la chambre de Louis XIV à Versailles. Le roi vient de s'éteindre et c'est pour nous l'occasion de raconter son règne, les vérités et les légendes qui entourent ses 72 ans de règne et 54 ans, on l'a dit tout à l'heure, de règne personnel. C'est quoi la différence, tiens, Thierry Sarmont ?
La différence, c'est qu'avant 1661, d'abord il y a eu la régence, puis il a laissé gouverner sa mère et Mazarin. Et puis, une fois Mazarin mort, il a décidé que ça allait bien. Et donc Anne d'Autriche a été priée de retourner à ses dévotions, et lui a gouverné seul, sans Premier ministre. C'est ce qu'on appelle la révolution de 1661.
Alors si on parle du château de Versailles, c'est évidemment le legs le plus visible, le plus impressionnant de Louis XIV. Combien de temps a pris la construction?
Alors j'aurais envie de vous dire 350 ans, puisque ça continue encore en ce moment, on en rajoute toujours des choses plus ou moins authentiques, mais on restaure en permanence, puisque c'est tellement vaste que le château de Versailles n'a jamais été nickel. Il y avait déjà un petit château sous Louis XIII, que Louis XIV a grandi. On peut dire que le gros chantier, c'est entre 1662 et 1690, petite trentaine d'années. Alors après, il y aura des ajouts, mais la silhouette actuelle du château, elle est en 90, elle est là.
Et sont populaires, ces travaux? On se dit, oh là là, il y a Louis XIV qui est en train de fabriquer un truc incroyable, vous allez voir ce que vous allez voir.
Pas du tout. D'abord, les courtisans n'avaient aucune envie d'aller à Versailles parce que le site de Versailles est très ingrat.
Ce sont des marais, c'est ça?
C'est le climat marécageux, les eaux malsaines à boire, il fait plus froid qu'à Paris, c'est-à-dire toujours vrai aujourd'hui. C'est venteux, assez mal relié à la capitale. Tout le monde s'est demandé pourquoi il n'était pas resté à Saint-Germain-en-Laye. Il reste une part de mystère parce qu'il était né à Saint-Germain et c'est le château de son enfance. Peut-être parce que Versailles, au départ, il l'a conçu comme une ville, une espèce de villa où il abriterait ses amours avec Mademoiselle de Lavallière, puis Mademoiselle de Montespan. Et petit à petit, le projet a changé et est devenu celui d'une résidence principale, d'un château qui témoignerait de son règne, puis d'une espèce de seconde capitale et d'un anti-Paris, en fait.
Et on lit souvent le point de départ ou la volonté de Louis XIV de se construire un château aussi prestigieux que Versailles avec sa visite du chantier de Vaux-le-Vicomte et du château du surintendant Fouquet. Est-ce qu'il y a un lien ?
Autre légende, parce que on parle toujours de cette fête de Vaux en 61 qui aurait causé la chute de Fouquet. C'est absolument faux, puisqu'il était déjà venu à Vaux un ou deux ans auparavant. Et il avait déjà assisté à des fêtes données dans des châteaux somptueux chez d'autres ministres. Versailles, c'est pas un anti-Vaux, c'est un anti-Louvre. Parce que le Louvre était le château de la monarchie que depuis la Renaissance, on essayait de faire par bout pour faire un grand palais, un peu dans l'idée de la Rome des papes et des empereurs. Et Versailles, ça sera son château à lui.
Thierry Sermon, selon la légende, Louis XIV aurait complètement ruiné le royaume avec cette construction
non,
de Versailles.
C'est un mythe de l'époque même. Hein, dans les pamphlets des années 90, publiés en Hollande, c'est déjà dit. En fait, on voit l'année où il y a les plus grandes dépenses, c'est 85 justement. Il y a 15 millions de livres pour les bâtiments du roi et ça fait, dans mon souvenir, 10% ou 15% du budget de l'État.
Alors comment il est financé, ces travaux ?
C'est plus que le budget de la culture maintenant, hein, c'est sûr.
Ouais, d'accord.
Pour un seul château. Mais c'est financé par quoi ? Par l'impôt ?
Ah bah oui, par l'impôt.
Forcément.
Oui. Ça, les gens sont là pour payer les impôts. C'était vrai déjà à cette époque.
Il crée même des impôts pour financer ce château ?
Non, en fait, le poste budgétaire majeur, c'est la guerre. Voilà. Et donc les bâtiments, ça vient après, ça vient quand même très largement après.
Donc ça veut dire que le rythme des travaux se ralentit au gré des guerres ?
Voilà, c'est-à-dire que quand les guerres durent ou tournent mal, les chantiers se ralentissent, voire s'arrêtent. Et puis en période de paix, ça repart. Et donc c'est une espèce de courbe qui fait des hauts et des bas.
Louis XIV donc, se fait plaisir, il se construit Versailles. Est-ce qu'il a des caprices un peu coûteux ?
Oui, parce qu'en fait, il change souvent d'idée. Et si vous regardez l'histoire de Versailles en détail, on construit, on détruit, on construit, on détruit. C'est la même chose dans les jardins qui ont quasiment autant d'importance que le bâtiment lui-même. On construit un bosquet, on le détruit, on fait un lac, on remplace le lac par une pelouse et ainsi de suite.
Ouais, c'était moins cher à l'époque, les travaux et la construction, non ?
La main-d'œuvre surtout était moins chère. Ouais.
Voilà. Thierry Sermon, personne ne doute aujourd'hui de ce que ce château de Versailles apporte à la France, à son éclat. Mais à l'époque, est-ce qu'il a une fonction peut-être politique ? Est-ce qu'il a joué un rôle dans le règne de Louis XIV ?
Tous les décors du château ont des prétentions politiques. On voit le roi soleil, on voit le roi victorieux des autres pays d'Europe. Effectivement, il veut en faire le nouveau palais de la monarchie après le Louvre. Voilà. Le palais symbolique de la France.
Et c'était aussi un moyen d'avoir la noblesse sous la main ou ça ne changeait rien puisqu'il l'avait déjà dans les autres
châteaux ? Alors la noblesse, elle était déjà réunie à Saint-Germain. Le processus pour réunir la noblesse, ça consiste simplement à dire que ceux qui sont près du roi vont recevoir des pensions et des charges. Et quand il y aura une place à donner, mieux vaut être dans la chambre du roi à son lever qu'être au fin fond de l'Auvergne ou du Berry.
Curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Nous entrons dans Versailles sur une musique de Lully, bien sûr. C'était le musicien préféré de Louis XIV. Nous sommes donc dans ce château où Louis XIV et la cour vivent depuis quelques années. Notre guide dans la Galerie des Glaces, c'est l'historien Thierry Sermon, grand spécialiste de l'Ancien Régime. Je rappelle que vous publiez 1715, La France et le Monde, c'est aux éditions Perrin. Alors nous sommes dans le château de Versailles. Qui on croise ? Il y a combien de personnes dans ce château ? Beaucoup de monde ?
Tout le monde peut venir à Versailles. Quitte, si on est habillé proprement, on peut louer une épée et se promener dans le château. Donc il peut y avoir de 3 à 10 000 visiteurs par jour. Et puis, alors, qui est logé ? Alors on a des chiffres qui datent d'un peu après la mort de Louis XIV, mais qui sont assez crédibles. On peut penser qu'il y a 7 000 personnes environ logés au château. Alors,
c'est beaucoup ou pas
Quand on dit château, évidemment, il faut voir qu'il y a plein de bâtiments annexes. Mm-hmm. Donc c'est vraiment le château avec toutes ces annexes. Et puis vous avez des personnes qui sont logées dans la ville de Versailles, mais aux frais du roi. Donc ils comptent dans ce stock de 7000 personnes.
Plus on est important, plus on est près du roi. Dans le château, voilà, il y a une espèce de logique géographique.
C'est pas la taille du logement qui compte absolument, c'est la proximité avec les appartements royaux. Et donc il y a tout un petit jeu, comme aujourd'hui à l'Élysée pour être proche du bureau du président de la République, eh bien on cherche à être le plus proche possible du roi. Et le roi lui-même joue de ça en distribuant les appartements, puisque comme dit Saint-Simon, la spécialité de Louis XIV c'est de donner l'existence à des riens. Tout doit prendre de l'importance, et alors donc il y a la distribution des appartements. Quand quelqu'un meurt ou tombe en disgrâce, aussitôt on récupère son appartement ou on le coupe en deux, ou on réunit des appartements aussi. Il y a tout un petit jeu immobilier autour de la distribution des logements.
Le personnel, les servants, les servantes,
plusieurs,
sont logés où ?
plusieurs centaines de domestiques, certains logés au château. Alors, il faut savoir que Louis XIV, ton valet de chambre, dort dans sa chambre aussi. L'idée de la vie privée n'est pas la même que la nôtre. Et donc,
je vous interromps, le valet de chambre de Louis XIV, c'est un grand honneur.
C'est une charge importante, d'ailleurs qui se transmet de père en fils dans des familles. Il y a quatre premiers valets de chambre qui se succèdent par trimestre. Et donc, ils dorment dans la chambre du roi. Et c'est pareil, tous les domestiques dorment vraiment à côté des maîtres. C'est la séparation entre les maîtres et les domestiques, c'est le 19e siècle. Avant, ils sont très mal logés quand même, ils sont dans des petits placards, mais ils sont à proximité immédiate du maître.
Et les maîtresses, Thierry Sarmand, on en parlait, les maîtresses de Louis XIV, elles sont importantes, elles sont logées tout autour de la chambre du roi.
Vaste sujet. Alors, en fait, il y a deux époques. Il y a l'époque débridée et l'époque sage.
Ah, on commence. Il y a eu d'abord une époque débridée,
d'abord
c'est
l'époque
ça
débridée. Alors, l'époque débridée, c'est
le jeune fou.
Après le mariage, en fait, il trompe son épouse Marie-Thérèse d'Autriche immédiatement avec Mademoiselle de Lavallière. Dans un second temps, Mademoiselle de Lavallière est concurrencée par Madame de Montespan. Et puis, elle reste tous les deux. Il y a une sorte de double commande. Et à un moment, Mademoiselle de Lavallière en a assez, s'en va, se retire au couvent. Et Madame de Montespan reste seule. Bon. En même temps, ça, ce sont les maîtresses officielles. Il y a pas mal de petites amourettes collatérales en même temps. Et puis, à partir de 1680, après l'affaire des poisons qui l'a beaucoup perturbé, là, il se range.
La maîtresse la plus marquante, la plus importante, c'est Madame de Maintenon, la maîtresse de Louis XIV.
C'est d'autant plus la plus marquante que ça n'est pas une maîtresse. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une amie, maîtresse, on saurait. Ont-ils consommé ou pas, mystère. Bon. Mais dès que la reine Marie-Thérèse meurt, deux mois plus tard, il l'épouse. Et là, on passe d'un modèle de roi, satrape, sultan, à un monsieur qui est un père de famille du 19e siècle, c'est-à-dire il vit avec sa vieille épouse, à la stupéfaction générale de la cour, pendant les 30 ans qui suivent.
Ça, c'est le roi qui se pose.
Voilà.
Quelle femme c'était, Madame de Maintenon ?
Alors, Madame de Maintenon, c'est une femme plus vieille que Louis XIV. Déjà, ça paraît extravagant, parce que 3 ans de plus que lui, donc...
La vieille !
Pour l'époque, ça paraît. Et surtout, quand elle l'épouse, elle approche la cinquantaine, donc ça paraît extravagant. Pour l'époque, c'est une vieille femme. Bon. Mais il semble que c'était une femme tout à fait intelligente, très habile, et d'un abord très agréable, très suave, alors que Madame de Montespan, elle, était autoritaire et faisait des scènes permanentes à Louis XIV. Et finalement, Madame de Maintenon a eu un effet reposant, relaxant sur Louis XIV.
Mais où se situait l'influence de Madame de Maintenon ? Est-ce que, par exemple, j'avais lu qu'elle lui choisissait ses maîtresses, qu'elle faisait la distribution de ses maîtresses. Est-ce que là aussi, c'est une légende ?
Ça, c'est une légende. C'est pas le genre. C'est plutôt sous Louis XV qu'on a ce genre de phénomène.
Des conseils politiques, peut-être ?
Dans un premier temps, elle donne dans la dévotion. Donc ça correspond au tournant religieux du roi. Et puis, assez vite, comme elle est devenue l'épouse officieuse, mais tout le monde finit par s'en rendre compte, elle a par force une influence politique parce que les gens passent par elle pour essayer d'obtenir des grades dans l'armée ou des charges dans l'église. Donc, par force, elle prend une influence.
Mais ça veut dire que Louis XIV reçoit des ministres, par exemple, dans les appartements privés de Madame de Maintenon ?
En fait, pendant tout son âge mûr et sa vieillesse, il passe une grande partie de sa journée dans l'appartement de Madame de Maintenon, qui est séparé uniquement par un escalier du sien. Et là, il travaille avec ses ministres. Alors, Madame de Maintenon est dans un coin, elle fait mine de tricoter ou de lire, en fait, elle écoute ce qui se passe. Et puis, si on lui demande son avis, elle met son mot. Alors, ça ne lui donne pas forcément une influence sur la ligne politique générale de l'État, mais en revanche, ça lui donne une influence sur les nominations. Et vous savez que les nominations, c'est quand même ce qui intéresse essentiellement les hommes politiques.
Il y avait combien de ministres ? Si on compare le gouvernement sous Louis XIV et ce qui se passe aujourd'hui.
Ce qu'on appelle les ministres d'État au sens le plus restreint, ça a navigué entre 5 et 8. Donc c'est vraiment des équipes gouvernementales beaucoup plus restreintes que les nôtres, et surtout beaucoup plus stables, puisque les gens restent aux affaires des dizaines d'années parfois. Et sur tout le règne, il n'y a eu que 3 disgrâces. Fouquet, Pomponne et Chamillard.
Et il voyait le roi une fois par semaine en conseil ?
Il y avait des conseils de ministres beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, jusqu'à 5 ou 6 fois par semaine. Il y avait presque un conseil tous les jours, plus qui était généralement le matin. Et l'après-midi, des réunions de travail en tête-à-tête entre le roi et un ministre.
Et il n'y avait que des femmes, que des hommes, bien sûr, je veux dire, que des femmes.
Les femmes, elles étaient derrière le rideau. Parce que les femmes des ministres
derrière
aussi...
Derrière le rideau.
Les femmes de ministres, qui sont complètement inconnues de l'histoire, en fait... le soir à la maison, elles avaient des débats avec leur mari. Donc, il faut voir aussi que comme tous les mariages étaient des mariages d'argent, Les carrières se faisaient en couple. Donc ce sont des femmes qui apparaissent peu.
C'est des femmes de l'ombre.
Femmes de l'ombre, mais il ne faut pas du tout imaginer que les femmes sont absentes du gouvernement. Et d'ailleurs, Louis XIV n'était pas du tout misogyne. Il n'a pas hésité à utiliser des femmes dans sa politique quand c'était nécessaire.
On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Thierry Sarment. 1715, La France et le Monde. Et votre livre est publié chez Perrin et puis chez le même éditeur. Je signale le livre de Jean-François Saulnon, voilà, que je ne l'écorche pas. Louis XIV, Vérités et Légendes.
C'est fini pour ce soir, mais vous avez l'habitude, on se retrouve toujours le lendemain. Et le lendemain, demain, ce sera à 20h avec La vie dans un monastère. On partagera le quotidien des moines chartreux. On vous racontera aussi l'histoire des trois ors blancs, le sel, le sucre et la farine.
Et puis un trio de légendes, Yves Montand, Simone Signoret, Marilyn Monroe, ses glamours et pas que.
Bonne soirée à tous. Place maintenant à RTL. Grand soir.
Vous écoutez RTL.